BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Tout juste 10h sur BFM Business. Bienvenue à toutes et à tous. Effectivement, c'est BFM Patrimoine. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous éclairer dans vos choix d'investissement avec nos meilleurs experts. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est une journée rouge vif sur les bourses européennes et même mondiales aujourd'hui avec ce nouveau variant venu d'Afrique australe. On en parle sans plus tarder, bien entendu, avec Antoine Larigauderie en direct de Euronext. Bonjour Antoine.
Bonjour Vincent.
Quelle est l'ampleur des dégâts ce matin ?
On peut dire qu'on limite presque la casse avec cette baisse quand même spectaculaire du CAC 40 de 3,4% à 6835 points. Mais on a touché un plus bas en séance, c'était du côté des 9h30, 100 points en dessous, du côté des 6736. On perdait plus de 4%. Donc il y a un véritable mouvement de purge là qui est en train de s'organiser sur les marchés, sur de gros volumes. On est à 1,5 milliard d'euros d'actions négociées déjà, un volume typique de mi-journée. Maintenant, là, c'est après une heure de cotation. Et donc, effectivement, ce nouveau variant change vraiment la donne et risque véritablement de créer des distorsions sur tous les scénarios qui ont été établis pour cette fin d'année et pour le début d'année prochaine si évidemment ce scénario sanitaire prend de l'ampleur. Donc du coup, on a une forme de très très forte prudence de la part des marchés. C'est l'occasion aussi, certains le diront, que le marché reprenne un petit peu son souffle, étant donné qu'il avait tendance à plafonner sur ses plus hauts historiques, notamment à Paris. Enfin là, il y a quand même quelque chose de plus et une dimension très sensiblement supérieure à celle d'une simple prise de bénéfice ou reprise de souffle. D'ailleurs, on le voit sur d'autres indicateurs, on sent vraiment des signes de tension. On a le baril de pétrole qui perd pas mal de terrain. On est à nouveau sous les $80, à $78.86 pour le Brent de mer du Nord. Forte correction sur le brut léger américain qui est maintenant du côté des $74. Et puis, du côté des taux d'intérêt, des taux du marché obligataire, on a vraiment corrigé là sur 24 heures à 0,05 pour la dette française 10 ans, moins 0,3% pour la dette allemande et 1,53 pour la dette américaine. Donc, une ambiance de purge sur les marchés et un marché vraiment typique comme en cas de recrudescence du risque sanitaire, c'est-à-dire qu'on se déleste de Unibail-Rodamco qui perd quand même 9,8%, 59,80 à l'immobilier commercial, bien entendu. L'aérien aussi, avec Airbus qui perd 9,5% à 101,58€. Safran, moins 9,36 à 102,16€. Et puis, d'un autre côté, sur le SBF 120, on a Elior, moins 8,2% à 5,78€. La restauration collective, évidemment. L'aérien, toujours avec Air France KLM, qui recule de 7,15% à 3,87€. Ou encore Accor dans l'hôtellerie, moins 6,37 à 27,64€. Tous les secteurs les plus touchés par une éventuelle dégradation vraiment forte du climat sanitaire mondial. Et puis à la hausse, vraiment très étonnant mais tout à fait logique, Eurofins Scientifique qui gagne 6,13% à 111,86€. Là, il va y avoir du travail pour les spécialistes d'Eurofins Scientifique dans les prochains mois si ce nouveau variant présente vraiment un danger très très fort. On a Biomérieux qui gagne 4,7% à 130,30€. Sartorius Stedim plus 4,26 à 101,40€. Valneva plus 1,17 à 24,14€. Puis tiens, Ubisoft qui s'intercale plus 1,26 à 45,06€. Peut-être en prévision d'éventuelles mesures de restrictions sanitaires, de confinement. On pense que les gens vont plus jouer aux jeux vidéo. En tout cas, Ubisoft fait partie des valeurs achetées ce matin. Le CAC 40, donc moins 3,6%, correction d'importance. En gros, on cède un mois de gains sur les marchés. On est à 6820 points sur l'indice parisien. Et l'euro, 1,1256$, on forcit un tout petit peu face au billet vert en ce moment. À noter le Bitcoin, parce que les crypto-monnaies ne sont pas épargnées par cette purge actuelle. Ah oui. Un Bitcoin qui descend de 57 000 à $55 000 en ce moment, un repli de 6,5% sur la séance.
Bon, écoutez, on va passer un vendredi.
Faut aimer le rouge, hein.
Intéressant, dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Antoine Larigauderie, en direct d'Euronext, comme tous les jours pour BFM Business.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et notre rendez-vous Pépite Zépipo, c'est avec Thierry Gauthier aujourd'hui. Bonjour Thierry.
Bonjour Vincent.
Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Alors votre pépite, c'est pas franchement un petit nouveau, hein. C'est Orange sur lequel vous êtes à l'achat. Orange dont on a beaucoup parlé cette semaine, bien entendu, avec la condamnation de Stéphane Richard, son PDG, dans le cadre de l'arbitrage contesté Bernard Tapie, Crédit Lyonnais. Stéphane Richard qui va démissionner. Alors pourquoi Orange ?
Tout à fait Vincent, écoutez, Orange, notre leader français des télécoms dans le monde, hein, présent dans 30 pays, dans le fixe, dans le mobile, dans les services de données, avec des positions fortes en Europe de l'Est et puis aussi sur les marchés émergents, l'Afrique et le Moyen-Orient. Écoutez, pour des raisons fondamentales et de valorisation, on est déjà acheteur depuis des mois sur ce dossier. C'est une société qui est très très résiliente dans la crise, on l'a vu. Le chiffre d'affaires a continué à progresser malgré la crise l'an passé. L'EBITDA et le résultat net va être très vite au-dessus de ce qu'il était avant 2019. Et puis, c'est un titre qui, malgré tout cela, cette résilience formidable, se paye 25% en dessous de ses niveaux boursiers pré-crise. Alors certes, il y a des difficultés sur le fixe, évidemment, en Espagne, et puis sur Orange Bank, qui sont des sujets compliqués. Mais voilà, le management nous a indiqué voir un peu le bout du tunnel sur toutes ces segments là qui sont un petit peu compliqués. Et puis, il faut pas oublier que chez Orange, il y a quand même des sources de croissance. Alors en termes de géographie, c'est la zone Afrique-Moyen-Orient et puis l'Europe de l'Est qui tire vraiment le groupe et qui représente aujourd'hui pour la zone Afrique-Moyen-Orient, je crois, 18% de l'EBITDA et qui sont vraiment en forte croissance. Donc voilà. Et puis sur des métiers comme le digital, le cloud, la cybersécurité, c'est une société qui est très présente avec des positions de leader aussi sur la 5G, sur la fibre. Donc voilà un groupe dans lequel il y a quand même des endroits de croissance et de vertu. Et donc, aucune justification pour nous à se trouver 25% sous ces niveaux boursiers pré-crise. Donc, ce qui nous fait ressortir le dossier aujourd'hui, c'est un peu le momentum. Il était épouvantable sur tout ce qui est télécom. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a deux sujets. Il y a Telecom Italia qui revient sur le devant de la scène et on voit que quand des fonds s'intéressent à ces sociétés-là, KKR et CVC, puisqu'a priori une offre conjointe serait en préparation, on voit que les ratios de valorisation sont nettement au-dessus de ceux d'Orange aujourd'hui. La première offre de Telecom Italia valorise 10 ou 15% au-dessus des niveaux de valorisation d'Orange. Quand on sait qu'ils sont en train d'en préparer une autre qui pourrait être substantiellement au-dessus, on imagine le potentiel boursier. Et puis, vous l'avez dit, Stéphane Richard, alors ça, c'est peut-être du côté des gestions ESG, puisque dans l'ESG, l'ISR, le G, c'est la gouvernance. Et c'est vrai que quand vous êtes dirigé par un président qui est en proie à des difficultés judiciaires, vous sortez un petit peu du scope de ces gestions. Et de fait, avec le départ de Stéphane Richard qui est annoncé, et son remplacement, même si on ne le connaît pas encore, cette dimension-là pourrait s'ouvrir de nouveau et permettre aux gestions ESG de revenir peut-être plus sereinement sur un dossier comme Orange. Voilà, un dossier qu'on pousse à l'achat parce que c'est 7% de dividendes qui pourraient être rehaussés avec des mesures de dépenses d'investissement qui vont se normaliser au fil des années et qui vont se réduire. Donc un dividende qui pourrait même être rehaussé sur les 7% que le titre donne actuellement. 30% de décote sur CPR, pour nous, il n'y a aucune raison. Et voilà, c'est ce qui nous fait pousser le dossier à l'achat aujourd'hui. Et on n'en attendait pas tant, mais les nouveaux variants dont on ne parlait pas hier et qui semblent résister au vaccin pourraient aussi remettre des dossiers comme Orange sur le devant de la scène, puisque, encore une fois, on le rappelle, c'est une société qui a traversé la crise la première crise Covid, si on peut l'appeler comme ça, en mars 2020, de très bonne manière.
Objectif de cours, quel est votre objectif de cours? On est à un petit peu plus de 9,70 actuellement, moins 1,7%. Finalement, c'est une défensive dans le contexte actuel là, du jour par rapport au reste du marché. Votre objectif?
Tout à fait, c'est un argument complémentaire, le fait d'être défensif. Notre objectif de cours, il se situe autour de 14 euros, ce qui correspondrait simplement à l'annulation de la décote par rapport à ses pairs, décote qu'elle subit peut-être parce que voilà, il y avait un président qui était en proie à des difficultés et qui pourrait rentrer de l'ordre prochainement.
Merci beaucoup Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion, pour cette pépite Orange donc.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et le point macro, on en parle tout de suite avec notre invité. Voilà, je me perds dans mes papiers, mais je vais bientôt les retrouver. Voilà, Patrice Gautry, bien entendu. En plus, je le vois sur mon écran de contrôle, Patrice. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très très bien, et vous-même ?
Bah, pas mal, merci. Chef économiste Union Bancaire Privée. Enfin, je vais bien, beaucoup mieux que les marchés. Hein. Vous avez vu ce qui se passe là depuis ce matin, depuis que les différents pays européens n'acceptent plus les voyageurs en provenance de l'Afrique australe avec ce variant hautement transmissible de la Covid-19. Votre réaction d'économiste face à ce qui se passe, les marchés financiers décrochent, le pétrole aussi, ça veut dire qu'on a des craintes sur l'impact de ce qui est en train de se passer sur la croissance future des grandes économies européennes et autres ?
Oui, on voit effectivement, enfin là ce sont des réactions un petit peu épidermiques puisque il nous manque quand même des informations fondamentales. Est-ce que véritablement ce nouveau virus en provenance de l'Afrique du Sud et d'autres pays environnants résiste donc au vaccin ? C'est pas encore véritablement donc établi, ce qui fait qu'on a des réactions donc un peu fortement négatives, mais je dirais aussi un petit peu épidermiques dans la crainte de revoir une fermeture généralisée ou un blocage généralisé des économies comme on l'a connu donc en 2021. Voire en 2020. Donc c'est un petit peu trop négatif, je trouve, comme réaction par rapport à la vérité ou la véracité des faits annoncés, puisque il faudrait attendre un peu une communication officielle à la fois de la part de l'Organisme mondial de la santé, mais aussi de la part des producteurs de vaccins pour voir si véritablement ce nouveau développement donc du virus, parce qu'il y en a eu de nombreux, hein, je le rappelle, hein, la Chine avait été fermée en termes de région. Alors, en termes négatifs et en termes positifs, je dirais, on est de mieux en mieux habilité et armé pour résister à des développements. Reste à voir, effectivement, si... Et les réactions sont rapides. On l'a vu, l'Europe se protège. Donc ça, c'est presque plutôt une bonne nouvelle, même dans cet environnement négatif, puisque même si, effectivement, il y a des contraintes pour les voyageurs, ces contraintes sont relativement limitées, ne concernent que ces pays-là. Mais l'Europe, cherchant à se protéger, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour, effectivement, éviter le retour à un confinement général. Et puis, deuxième fait, il ne faut pas oublier que toutes les inquiétudes qui étaient apparues au fil des jours derniers, qui concernaient des resserrements monétaires beaucoup plus forts, si jamais on retourne effectivement avec des confinements ou un impact négatif de la croissance de ces restrictions de voyage, eh bien les banques centrales vont différer, je dirais, leurs ajustements monétaires et les gouvernements vont continuer à soutenir l'activité. Donc il ne faut pas non plus, je dirais, avoir une vision trop trop négative, mais essayer de mesurer et de calibrer. Et la réaction des marchés ce matin me semble pas très calibrée par rapport à ces faits-là.
Donc la réaction épidermique, et finalement les marchés pourraient bien réagir à une possible poursuite des politiques ultra-accommodantes des banques centrales, puisqu'on se dirigeait plutôt du côté de la Fed vers une fin du tapering qui, dans les conditions, les circonstances pré-annonces de ce nouveau variant, eh bien allait se terminer ce tapering au printemps prochain. Donc les scénarios vont peut-être évoluer dans les jours qui viennent.
Il est certain que dans le débat à choisir entre la croissance et l'inflation, à partir du moment où les banques centrales avaient le sentiment que la croissance était fermement en place, mais ce sentiment effectivement peut être remis en cause par les développements au sein de l'Europe, puisque l'Allemagne est en débat sur des mesures éventuelles supplémentaires à prendre à l'instar de l'Autriche, et on a vu effectivement en France donc que on ne met pas en avant effectivement de resserrement, enfin un resserrement des conditions, mais pas, je dirais, de fermeture économique. Et bien par rapport à cela, s'il y a un débat entre la croissance et l'inflation, les autorités budgétaires et les autorités monétaires vont choisir la croissance, et l'inflation, je dirais, s'ajustera, parce que si on ferme l'activité, eh bien, on reviendra avec du travail à la maison, avec d'éventuelles fermetures de magasins, et cela pèsera sur la demande. Ça la détruit pas, ça la reporte sur d'autres trimestres, mais ce qui veut dire qu'il y aura un impact éventuellement négatif, et on risque de perdre quelques points de croissance sur le quatrième trimestre, et que l'inflation suivra derrière, parce qu'effectivement, il y aura aussi moins de demandes. Donc, on voit bien que, je dirais, le débat sur l'inflation perd de son importance au profit de la survie, en quelque sorte, du cycle économique en termes de croissance. Et là-dessus, les autorités budgétaires, monétaires et sanitaires vont faire tout pour préserver ce cycle de croissance.
Là, on apprenait ce matin que le moral des ménages était stable, moral des ménages français. Bon, ça pourrait donc changer dans les semaines qui viennent. Et qu'est-ce qu'on disait du reste de l'Europe déjà? Parce que, bon, en Europe, ça fait déjà quelques jours hein, qu'on parle d'une reprise de l'épidémie. Vous le jugez comment ce moral des ménages européens? Plutôt résilient, vu le contexte?
Alors effectivement, on a vu une légère baisse, l'indicateur préliminaire du moral des ménages au niveau européen a baissé, mais ça c'était bien entendu pas véritablement en lien avec les développements du Covid, ou du moins très très peu, puisque en fait c'est la date de sondage, donc il faudra voir le résultat final. Il y a une légère baisse, et ces légères baisses elles peuvent être liées effectivement à ce retour de certaines restrictions, mais aussi au développement de l'inflation, puisque c'est souvent en fait les conditions financières, personnelles, c'est-à-dire en fait une perte de pouvoir d'achat qui était mentionnée, à la fois dans les indice européen comme dans la baisse de l'indice de confiance des ménages américains. Donc là, on a, je dirais, un même sujet d'inquiétude avant de parler, bien entendu, du retour du Covid. Et puis à l'inverse, on avait, je dirais, des indicateurs de morale dans l'industrie prélevé, bien entendu, avant ces nouvelles sur le Covid, qui étaient plutôt très très résistants, ce qui veut dire que malgré en fait les goulots d'étranglement, malgré, je dirais, les manques d'approvisionnement, eh bien en fait les entreprises n'avaient pas perdu le moral et même au contraire étaient plutôt en train de rebondir ou de s'accommoder de la situation. Donc ça veut dire en fait que on a un terrain économique qui est assez résistant. Alors bien entendu, si on ferme l'activité partout, on n'y arrivera pas, du moins à tenir cette résistance. Mais il y a peut-être des marges de manœuvre pour accepter effectivement certaines contraintes sans revoir l'économie mondiale et l'économie européenne plongée à nouveau en récession au quatrième trimestre.
Merci beaucoup Patrice Gautry d'avoir été avec nous aujourd'hui, chef économiste Union Bancaire Privée, pour cette réaction à chaud aux implications sur l'économie donc de ce nouveau variant sud-africain venu d'Afrique australe et hautement transmissible.
Votre rendez-vous avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Et pour ce rendez-vous Vie Immo, Xavier O'Quinn nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes le président d'Edgar Suite, spécialiste des résidences hôtelières, c'est bien ça. Avec vous, on va parler de l'impact de la nouvelle vague de Covid sur le secteur. Alors la nouvelle vague, celle qu'on avait jusqu'à maintenant, qui, on ne sait pas trop, mais va peut-être encore évoluer avec ce qui se passe et ce nouveau variant sud-africain. On va parler aussi de l'objectif hein, de faire de la France une destination touristique durable, objectif du gouvernement. On commence avec cette cinquième vague de Covid. Est-ce qu'on peut déjà en mesurer l'activité sur l'impact sur l'activité hôtelière?
Alors, en ce qui nous concerne, on observe que le dernier trimestre de l'année 2021 se passe de façon très favorable pour l'activité touristique. On a gagné à peu près 15% d'activité sur le mois de septembre par rapport au mois d'août, 30% au mois d'octobre par rapport au mois de septembre. Et nos prévisions nous amèneraient à une fin d'année 2021 quasiment dans l'épure de ce qu'était l'activité en 2019. Donc, c'est très encourageant. Évidemment, on suit l'actualité au jour le jour. On a du mal à prévoir l'avenir en général, mais en ce moment c'est un petit peu plus difficile que d'habitude. Mais les indicateurs sont quand même positifs, avec un remplacement de la clientèle internationale qui a du mal à voyager par une clientèle plus européenne qui elle est du coup dans l'impossibilité d'aller dans ces destinations et qui se rapatrie sur la destination France, qui est une destination qui a vraiment de très grosses forces.
Comment est-ce qu'on explique ces chiffres?
Alors, nous, on résiste un peu mieux que la moyenne et notamment que les hôteliers parce que, notre format de résidence, ce sont des appartements. Et le format des appartements est plus résilient, notamment parce que avec les cuisines, les clients vont avoir une autonomie à la fois alimentaire, mais aussi une autonomie en termes d'interaction avec le personnel qui les rassure. Donc les formats d'appartements sont plus résilients pendant toute la durée de cette aventure Covid que les autres formats. Et puis, en parallèle, il se trouve que chez Edgar Suite, on a une expérience voyageur assez remarquable. On a d'excellentes notes sur les plateformes de réservation en ligne et que dans les périodes de baisse de la demande, eh bien cette très bonne qualité de service devient un atout très différenciant.
C'est ce qui explique ces notes, justement, la relation entre ces notes et la résilience face au Covid.
Exactement. C'est l'idée. C'est qu'aujourd'hui, on est coté un peu en temps réel sur la bourse de Booking. Mmh. Les clients se décident un peu au dernier moment, font la comparaison entre les prix et la qualité des services qui sont servis. Et donc, on a un vrai avantage. La moyenne des hôteliers est à 7,5. À Paris, par exemple, donc c'est très différenciant d'avoir de très bonnes notes. Mmh.
On en vient à ce plan gouvernemental annoncé cette semaine par Jean Castex, qui veut faire de l'Hexagone la première destination touristique mondiale durable d'ici à 2030. Il y a encore un objectif 2030. Le tourisme durable, c'est quoi exactement ?
Alors, le tourisme durable, en effet, c'est un nouveau concept qui se met en place et c'est la première fois que le gouvernement se l'approprie. On va dire qu'on part du constat que aujourd'hui, on a de plus en plus d'habitants dans le monde et de candidats au voyage, notamment les classes moyennes chinoises, les classes moyennes indiennes. La destination France, évidemment, c'est une destination qui est très attirante. Le nombre d'actifs touristiques, d'assets touristiques est limité dans le monde, limité en France, et donc on se retrouve avec des problèmes de densité. Et le surtourisme se matérialise dans un certain nombre de destinations. On a des endroits comme le Machu Picchu ou Barcelone ou même certains quartiers de Paris aujourd'hui où on se retrouve avec une exaspération.
C'est plus le cas avec le Covid est passé par là. C'était avant le Covid qu'on voyait aux quatre coins de l'Europe aussi des populations locales qui se plaignaient de ça, notamment effectivement en
Espagne. Bien sûr. Ouais. Mais la sortie de Covid est à venir. Donc quand on regarde sur un horizon 2030. Je pense que c'est important de traiter ce point-là. En tout cas, c'est une des motivations du gouvernement.
Le problème va revenir.
Il faut plus de tourisme, mais attention à la dose. Mmh. C'est la dose qui fait le poison. Donc, il y a un enjeu à avoir une logique de préserver la bonne cohabitation avec les habitants, de préserver aussi la planète, parce que des voyageurs, il faut essayer de les inciter à ce qu'ils aient un impact le plus faible possible sur la planète. Et puis, accessoirement aussi, il y a des enjeux RSE, enfin sociaux. Mmh. C'est que les modèles hôteliers traditionnels, historiques, n'étaient pas forcément très en avance. Et on voit bien les discussions salariales aujourd'hui qu'il y a au niveau de la branche, montrent bien qu'on est obligé d'aller dans un petit peu de pression sur les acteurs historiques parce que les modèles...
On a vu des grèves dans certains hôtels à Paris. Hein.
Excusez-moi.
On a vu des grèves dans
voilà,
certains
y a des grèves.
Hôtels à Paris et hôtels de luxe sur les conditions de travail.
Des grèves et des grosses difficultés à retrouver des salariés qui ont un peu quitté le métier pendant la période Covid et qui aujourd'hui ne se retrouvent pas forcément dans l'équation contrainte d'un métier qui est à la fois très enthousiasmant parce que l'hospitality business, c'est un métier formidable d'arriver à faire sourire les gens, d'arriver à les accueillir et qu'ils soient heureux ailleurs que chez eux, c'est quand même une motivation pour beaucoup des effectifs de ce secteur. Mais en même temps, il y a des contraintes. C'est 365 jours par an, c'est avec des horaires un peu décalés. Et donc, si le salaire ne reflète pas les contraintes des salariés, on a des difficultés.
Que faites-vous justement chez Edgar Suite dans ce registre du tourisme durable ? Vous avez des actions concrètes à nous annoncer ?
Alors, en effet, nous, on a déjà... C'est une espèce de position, c'est que on essaye d'attirer chez nous plus les voyageurs que les touristes. C'est-à-dire que le voyageur, c'est quelqu'un qui a envie de vivre vraiment une expérience locale, par opposition à un touriste qui est juste spectateur et qui va vouloir cocher la liste de tous les principaux monuments et qui donc va pas vraiment avoir envie de respecter ce biotope. Donc, beaucoup de local. Concrètement, on met en place des partenariats avec des associations locales pour donner aux touristes des bonnes adresses, pour qu'ils vivent le plus possible comme un Parisien. Et ça, c'est un axe important d'acceptation. D'autre part, il y a chez nous un enjeu de polyvalence des salariés qui sont mobilisés, avec du coup une capacité à les payer de façon sensiblement plus importante que dans l'industrie classique, ce qui nous permet un, de ne pas avoir de turnover, et deux, de trouver de nouveaux salariés dans des conditions assez favorables. Et puis, plus globalement, on met en place un certain nombre de mesures pour limiter l'impact, à la fois sur le traitement des déchets. On va inciter les voyageurs à faire du tri sélectif, ce qui est relativement facile dans un appartement par rapport à dans un hôtel. Et puis, on va avoir aussi des actions concrètes dès l'initiation des projets, puisqu'on va meubler, nous, la plupart de nos résidences avec une partie de meubles qui sont des meubles de seconde main, ce qui donne de l'âme à nos endroits.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Xavier O'Quinn. Je rappelle que vous êtes le président d'Edgar Suite. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Dans un très court instant, 10h30 sur BFM Business. Le temps passe très vite, surtout quand il se passe autant de choses sur les marchés. Et on va y revenir justement sur cette séance très baissière sur les marchés boursiers avec nos deux traders, Stéphane Sauduteil chez Technibourse et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
À tout juste 10h30 dans BFM Patrimoine et comme promis, notre match des traders, Stéphane Sauduteil chez Technibourse, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Bonjour messieurs. C'est chaud hein, aujourd'hui ce qui se passe sur les
Bonjour
marchés. Voilà, ces derniers jours, vous nous disiez qu'il ne se passait pas grand-chose. Là, on est servi. Hein. Stéphane Sauduteil, on commence avec vous chez Technibourse. Votre analyse de la situation sur ce plongeon, hein, on peut le dire, hein, des bourses européennes, de la Bourse de Paris en particulier, avec ce nouveau variant sud-africain qui concerne toute l'Afrique australe et qui est hautement contagieux.
Oui, c'est vrai, la débandade porte un nom, effectivement, le B11529, comme vous venez de le dire, le variant sud-africain. Ça agite profondément, négativement, bien sûr, l'ensemble des marchés de la planète. Ce qui serait intéressant à savoir, pour voir si ce plongeon est durable ou qu'éphémère, si les vaccins à l'heure actuelle couvrent une partie ou tout en partie ce variant. Donc ça, c'est la question vraiment qui vaut très très cher sur les marchés ce matin. Cette baisse est quand même très organisée d'un point de vue technique. Bon, on a ouvert un gap totalement énorme entre 7047 et 6846 points, donc gap baissier, hein, 200 points, c'est j'ai rarement vu un gap aussi important hein, sur les marchés de souvenirs hein, de ma carrière de 25 ans maintenant. On a quand même un niveau de support très important qu'il va falloir essayer de préserver ce soir en clôture. Ce niveau, on peut l'étendre sur une centaine de points compte tenu de la volatilité. On peut dire 6680, 6780 points. On est un petit peu au-dessus à l'heure actuelle, donc je dirais qu'on a un rebond réflexe assez logique et assez naturel puisque cette zone correspond finalement au point de débordement du range dans lequel on était enfermé, 6380, 6780, et qui a permis de réaliser l'objectif à la perfection à 7180 points. Donc on revient tester finalement le haut de cette dérive horizontale estivale. Donc c'est assez logique. Alors ça crée des remous partout. Alors c'est vrai qu'il y a une forte détente sur les taux d'intérêt. On a vu le 10 ans américain passer de 1,68 à 1,52, puisque finalement les opérateurs se disent, oui mais si le variant revient, s'il est méchant, s'il est contagieux, peut-être que les politiques monétaires vont de nouveau être un peu plus généreuses. Donc dans le doute, on commence à vendre des taux d'intérêt qu'on avait rachetés il y a déjà pas mal de semaines de cela. On voit également une reprise de l'euro-dollar qui est assez légitime compte tenu de la surtension baissière que l'on avait un petit peu également ces derniers jours, mais voilà, on peut remonter vers les 1,1360, mais peut-être guère au-delà dans l'immédiat. Et puis on voit bien sûr l'or reprendre un petit peu de sa superbe, et puis le Bitcoin qui pour moi n'est pas une valeur refuge, eh bien suit les marchés. Donc journée un peu compliquée, tout n'est pas perdu bien entendu, loin de là. Il y a beaucoup d'événements qui pourraient remettre le CAC 40 dans le sens de la marche, le Black Friday, le NFP, les créations d'emplois la semaine prochaine, la BCE le 16 décembre, l'inflation américaine potentiellement. Voilà, il faut voir surtout, je pense que la clôture de ce soir sera très très importante pour voir si on arrive à tenir ces niveaux assez techniquement très importants hein, que je viens d'évoquer, 6680, donc 6780 points.
Merci Stéphane Sauduteil. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'état du marché. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Et si ce plongeon du jour finalement était l'occasion de revenir sur certains compartiments du marché?
Sans hésiter, oui, c'est ce que j'ai fait ce matin.
si vous voulez, là, c'est vraiment la revanche du trader sur la gestion passive. Là, vraiment, c'est une magnifique journée. Bon, moi, j'étais en poudre synthétique. J'achetais toute la journée, je revendais, j'achetais, je revendais. Coup de bol, la dernière opération, comme le marché avait remonté hier soir, c'était la vente à 69,5. 7069,5. Et puis, ce matin, on arrive, boum, tout se casse la figure. Certains y voient, si vous voulez, ils voyaient peut-être, mais ça s'est un peu calmé là, le fantôme de mars 2020. Mais moi, je crois pas en revenant. Donc, si vous voulez, j'ai acheté ce matin 6753. Après, j'ai payé coup de bol. J'ai été fait à 6700,5. Mais là, c'est du grand n'importe quoi parce que quand je vous disais tous les jours, le marché manque de densité, il y a rien dans les carnets. Parfois, on dit il exagère Cussac, mais non, il exagère pas du tout parce que LVMH a perdu 12% en quelques secondes. LVMH, vous savez, c'est la valeur du luxe là, qui pèse 12% du CAC et qui est une des plus grosses capitalisations en Europe. 12%, elle a fait moins 12, plus 8 en quelques secondes. Donc là, il y a quand même des trucs qui vont pas. Hein, c'est pas normal. Ça veut dire que qui était placé sur repli à l'achat sur LVMH? Personne. Ou alors, en tout cas, très peu de monde. 1,8 milliard de traités au total, c'est pas mal. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un peu d'arbitrage, c'est évident. Donc moi, si vous voulez, je considère que c'est une opportunité vraiment de rentrer. Là, j'ai acheté de l'Airbus, par exemple. Je me suis dit, allez, bon, elle ne cotait pas. Si vous voulez, j'étais sur le futur. Du coup, il y a la dernière qui a coté, c'était Airbus. Je me suis dit, allez, moins 12, j'y vais un petit peu, ou moins, je ne sais plus combien, moins 10, là. Bon. Maintenant, c'est sûr que rien n'est gagné, mais attention, hein, ce variant, c'est pas un scoop. Hein. Hier, on en parlait déjà, avant-hier aussi. Les salles de marché, ça. Enfin, moi, c'est ça qui. Ce sont les réactions derrière violentes. On ferme des frontières tout de suite, etc. Mais le variant, il était connu, il était identifié. Et attention, faut pas non plus aller trop vite parce qu'on sait pas grand-chose. Donc ils disent qu'il y a de nombreuses mutations de la protéine Spike, mais il y a un doute sur l'efficacité des vaccins. Mais bon, à chaque fois c'est la même chose. Il y a un doute sur l'efficacité sur le Delta. Il y a un doute sur les. Bon, voilà, c'est normal. Et puis après tout, on peut toujours ajuster les vaccins. Mais je pense que c'est un phénomène, je vous dis, où le fantôme de 2020 est revenu comme ça devant les yeux des opérateurs, et ils ont eu un coup de panique. Il faut pas s'exciter. Donc moi, j'ai acheté vendu ce matin à plusieurs reprises. Ça a été assez rapide, violent. On peut même pas trop expliquer ce qu'on fait parce que parfois, si vous voulez, c'est aussi du trading d'écart type au doigt mouillé. Alors, au doigt mouillé, oui, mais l'écart type est important à respecter. La volatilité qui a explosé, on est passé de 15 à 24 de vol en une journée. Donc, faut respecter des principes de base. Donc ça, on les respecte, mais c'est vrai que il faut trader la panique. Si vous voulez trader la panique, c'est avoir le courage de se mettre en face de mouvements parfois où on se dit, sur le fond, qu'est-ce qui a changé? Faut pas non plus délirer totalement. Là, on est dans une période maintenant de calme. Le marché, depuis une heure, là, c'est bien calmé. Je suis placé au rachat, d'ailleurs, de positions à nouveau que j'avais revendues, etc. Parce que je travaille les deux sens vers les 6753, oui, mais là, on n'y va même pas. Voilà, je pense que c'est un marché où il y a des opportunités. Vous vous rendez compte, moins 12 LVMH, j'en reviens encore pas. Et Airbus, bon, Airbus, c'est pas Air France, quoi. Donc, ils ont passé pas mal de contrats, étaient plutôt pas mal. Donc là, je pense que c'était aussi une opportunité. J'ai renforcé une ligne. Alors bon, là, elle a pas beaucoup baissé, mais c'était prévu dès le départ. Si vous voyez, j'avais acheté du Bouygues. Je perdais un peu de sous, hein, j'en perds toujours, d'ailleurs. Et puis, là, j'ai complété. Voilà, j'ai ma ligne aujourd'hui, globale, que j'avais prévue. Et puis, ça sert à un fonds de portefeuille. Et je pense que c'est peut-être une opportunité à rentrer. Alors, évidemment, on connaît la sensibilité des marchés aux variants, enfin à la pandémie, etc. Ça, c'est en l'état actuel des choses que je fais aujourd'hui. Je vais plutôt avoir tendance à solder beaucoup de positions sur les futurs, puisque je vous disais, j'étais en synthétique. J'ai pas l'impression que ça puisse déraper fortement. Je persiste et signe, la construction des marchés aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de la fin 2019 ou du début 2020. Ce marché s'est construit dans la douleur, dans le doute, dans la méfiance, avec des vols implicites nettement plus élevés que les vols historiques, surtout quand les marchés montent très doucement, comme ça a été le cas. Donc, on n'a pas une vulnérabilité très forte. Je disais que les 6750 est un niveau d'achat sur repli que beaucoup de gérants voulait certainement, après la dernière accélération, surveiller pour entrer. Mm-hmm. Alors quand c'est violent comme ça, c'est normal qu'on ne se précipite pas. Ouais. Mais avec la réflexion, je pense que tranquillement, les ordres vont arriver et les marchés peuvent parfaitement tenir la zone des 6750-6700.
Bon. Jean-Louis, rassurant ce matin, il ne croit pas aux revenants. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. D'ailleurs, c'est vous qu'on retrouve dans une heure, Jean-Louis. Désolé Stéphane, ouais. Hein, mais merci d'avoir fait comme si on allait vous retrouver. De toute façon, on vous retrouvera bien entendu la semaine prochaine depuis Technibourse. Merci messieurs.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et cette polémique, c'est avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors vous avez des annonces à nous faire. C'est une bonne nouvelle. Si on a un emprunt immobilier, il sera possible de changer d'assurance emprunteur à tout moment. C'est ce qu'ont décidé les députés hier. Concrètement, qu'est-ce que ça change?
Eh ben, vous avez votre crédit, il est assuré. Vous décidez quand vous voulez de changer d'assureur si vous trouvez moins cher ailleurs et sans frais. Jusqu'ici, j'ai envie de dire enfin. Enfin. Jusqu'ici, les derniers éléments qui étaient installés, c'était où on peut changer à date d'anniversaire. Donc, c'est quand même une réforme qu'on attend depuis longtemps. On en parle depuis très longtemps. Il y a eu énormément de textes de loi depuis plus de 10 ans. Ça concerne 7 millions quand même de particuliers qui ont souscrit un crédit. C'est un marché qui est estimé à 10 milliards d'euros. Et je dis enfin parce que, au-delà de l'intérêt pour n'importe quel particulier de revoir à la baisse ses mensualités, tout simplement, en baissant le prix de son assurance, il y a tout un côté business qui est sain. Parce que là, vous avez les assureurs qui se disent, on va enfin peut-être pouvoir se positionner sur un marché qui est complètement dominé par les banques. 88% de ce marché, c'est les banques qui aujourd'hui l'occupent. Parce qu'évidemment, comme c'est les banques qui accordent les crédits, généralement, elles glissent l'assurance à leurs clients. Et souvent, un peu par facilité, on va prendre l'assurance qui est proposée par la banque. Et donc, c'est bien que, comme ça, une concurrence s'installe dans un secteur où elle n'existe pas. Alors, vous avez dit « sera ». Attention, oui, c'est vrai, on est encore en pleine navette parlementaire.
D'accord.
Ça fait un an déjà que la proposition de loi circule.
C'est pas nouveau, ça.
Elle devrait être adoptée d'ici la fin du mandat, la fin du quinquennat, donc au printemps 2022. Et son entrée en vigueur n'est pas attendue avant 2023. Donc c'est une bonne nouvelle de mettre de la concurrence. Mais c'est de la concurrence qui peine un petit peu à accoucher quand même.
Bonne nouvelle à venir. Est-ce qu'on peut vraiment réaliser de belles économies en faisant jouer la concurrence sur son assurance crédit?
Oui, alors moi j'ai regardé les projections de ceux qui ont fait les projections. D'abord vous avez Patricia Lemoine qui est la députée qui porte cette proposition de loi. C'est pas un projet, c'est une proposition de loi. Elle appartient au groupe Agir, c'est le groupe lancé par Franck Riester. Elle dit on peut faire entre 5 000 et 15 000 euros d'économies sur l'ensemble de la durée du contrat. Il y a un autre chiffre qui est un peu moins satisfaisant, mais assez proche, qui a été proposé par le comparateur d'assurance Réassurez-moi, qui arrive sur une moyenne de 7 800 euros d'économies sur l'ensemble de la durée du contrat. Vous avez encore Magnolia.fr, un autre comparateur d'assurance, qui lui a essayé de faire une projection mensuelle. Vous ferez entre 25 et 50 euros d'économies par mois. Et plus tout récemment, UFC Que Choisir, qui est toujours là pour dénoncer les positions un peu dominantes, dit qu'il y a quand même un problème. On est sur un marché où les banques font 68% de marge sur ces produits-là. Oui, le banquier part du principe que de toute façon, quand il va proposer à son client qui n'est pas un professionnel l'assurance maison, ou en tout cas l'assurance avec laquelle il a l'habitude de travailler, le client part facilité.
En général, ça marche.
Ah oui, je prends parce qu'on n'a pas envie de s'ennuyer. D'ailleurs, on regarde toujours, vous savez, que le taux d'emprunt. Mais les taux qu'on donne, nous, c'est toujours des taux hors assurance. Et souvent, on met de côté l'histoire de l'assurance.
On négocie sur le taux d'emprunt, c'est vrai.
Ah oui, mais pas sur l'assurance, c'est un pan énorme, en fait, du crédit immobilier. Et donc, l'UFC Que Choisir dit que cette réforme peut libérer jusqu'à 550 millions d'euros de pouvoir d'achat. Et le pire, en plus, c'est que je rappelle que cette assurance emprunteur, elle n'est absolument pas obligatoire. Seulement, allez trouver un banquier qui va vous accorder un prêt si vous n'avez pas cette assurance, qui normalement porte sur le décès, l'invalidité ou encore la maladie. Évidemment, vous ne trouverez pas. Et alors, voilà, le droit des emprunteurs, ou en tout cas, le droit des emprunteurs va peut-être enfin progresser parce qu'on on accumule les textes de loi depuis 2010 pour essayer d'avancer dans ce domaine. 2010, c'est la loi Lagarde. La loi Lagarde dit, vous avez le choix de prendre une autre assurance que celle que votre banquier vous soumet. Ça n'a pas eu d'effet. Ensuite, on a eu en 2014 la loi Hamon. La loi Hamon dit, vous pouvez changer quand vous voulez pendant les 12 premiers mois. Sous-entendu, un an et un jour, c'est fini. Déjà, monter un dossier de crédit, c'est quand même une opération lourde.
Ah, faut être organisé. Hein.
Ça occupe un peu l'esprit. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Les 12 premiers mois, qui a envie de remettre le couvert là-dessus, ouais, de commencer à faire de la comparaison. Et puis en plus, le monde de l'assurance emprunteur dans l'immobilier, c'est pas un univers que les particuliers maîtrisent forcément bien. Et on a eu un amendement d'un sénateur PS en 2018 qui dit, vous changez, c'est pas de problème, mais à date d'anniversaire. Et là, ça n'a pas eu d'effet non plus. En plus, il y a eu une polémique. Alors, c'est quoi? C'est la date du notaire? C'est la date du contrat de prêt? C'est quoi la date d'anniversaire? Espérons que là, un truc très simple, quand vous voulez, sans frais, au moins espérons que ça aura de l'effet et qu'on va enfin avoir de la concurrence.
À partir de 2023.
Oui, sans doute, à partir de 2023.
Merci beaucoup, Nicolas Dose, Nicolas, pour cette polémique.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et notre rendez-vous idée de placement, c'est avec Sarah Thirion aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Stratégiste action chez Tipeee ICAP. Et François Meunier qui s'installe. Bonjour François.
Bonjour Vincent.
Bienvenue
Bonjour.
À vous, directeur de la rédaction d'Investir. Je vais vous demander votre réaction à l'un et à l'autre, à ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les marchés d'action. Ce nouveau variant sud-africain qui concerne en fait toute l'Afrique australe et qui sème la zizanie sur les marchés. C'est apparu dans l'actualité il y a à peu près 2 jours, mais là on prend pleine conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Sarah, sur les marchés? C'est une réaction épidermique?
Non, c'est une réaction légitime sur une résurgence d'un nouveau variant sur lequel visiblement les vaccins que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas de résistance ou d'effet. Et donc les marchés de se rappeler quand même tout ce qu'on a pu vivre lors des deux dernières grosses périodes de restrictions inhérentes à Covid-19.
C'est le spectre de mars 2020.
Oui, il y a forcément un peu de ça. Et donc on voit d'ailleurs dans l'évolution des indices aujourd'hui se dessiner exactement ça et de reprendre effectivement les valeurs qui avaient plutôt bien résisté et fonctionné pendant cette période et inversement d'alléger celles qui avaient davantage souffert. C'est d'autant plus vrai que en fait, les marchés avaient très très bien fonctionné jusqu'à présent, étaient éminemment bien orientés, et que l'inquiétude était de savoir si l'année prochaine on aurait des hausses de taux en milieu d'année, ou plutôt que prévu, etc.
Donc, du fait de l'amélioration de la conjoncture.
Là, mais on avait toujours cette perspective de voir effectivement la croissance des résultats des entreprises continuer de s'améliorer. Est-ce que l'économie est capable de résister à nouveau à un choc Covid? C'est l'économie mondiale, c'était quand même un sujet. Et donc les marchés de réagir ce matin, je pense, assez légitimement.
Bon, là, tout chute, sauf ce qui est lié aux tests, ce qui est lié au vaccin. François, votre analyse de la situation, ça vous surprend ce qui se passe aujourd'hui?
Non, mais la réaction, elle est forte, parce que le marché avait déjà initialement fortement monté, donc on était dans une situation où
les valorisations, les indices, ils sont pour quelque chose.
Les indices étaient élevés et on avait besoin de carburant pour aller plus haut. Donc là, on a un double phénomène. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive avec un variant. Disons que ça sert de prétexte pour générer des prises de bénéfices sur des titres qui avaient gagné 30, 40, 50, 60, 100% depuis le début de l'année. Donc là, on a une phase où avec un double phénomène, des prises de bénéfices sur des titres qui avaient fortement monté, et puis une nouvelle donne qui peut remettre en cause les scénarios pour 2022 avec ce variant. Là, maintenant, ce qu'attendent les investisseurs, c'est bien sûr les réactions des laboratoires, puisque là, la rumeur, c'est que ce variant sud-africain, il pourrait éventuellement résister au vaccin. Donc maintenant, bien sûr, tout le monde attend des déclarations de Pfizer.
Alors l'OMS, se réunit aujourd'hui et puis on verra effectivement quelle est la réponse.
Voilà, donc
des Pfizer et autres Moderna.
Si on a des réactions musclé de Pfizer qui dit non, nous avec l'ARN on est confortable, du moins ce vaccin servira de bouclier avec ce nouveau variant Delta, eh bien ça aura été l'occasion éventuellement de profiter du trou d'air. Si on voit que les laboratoires hésitent sur des déclarations extrêmement claires vis-à-vis de ce variant, on va rentrer dans une période de forte...
Il faudra qu'ils fassent très attention à ce qu'ils vont nous dire.
Absolument.
Les grands labos.
Ce sera des discours aussi importants qu'un discours d'un banquier central qu'on aurait pu avoir avec aux États-Unis ou en Europe.
Bon, François, Sarah, on était parti pour parler de la façon de gagner de l'argent en bourse. Bon, ça ne remet pas en cause.
Non, bien sûr.
C'est ce dont on devait parler avant cette chute des marchés. Bon, On était parti et... On ne sait pas ce qui va se passer hein, dans les jours qui viennent, mais avant cette chute du jour, on était parti pour une belle année hein, sur le CAC 40, plus de, enfin 27% de rebond.
Bien sûr.
On gagnait facilement de l'argent en bourse. Les années se suivent et on sait que les performances sont inégales. Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner pour gagner de l'argent sur la durée en bourse, François?
Gagner de l'argent sur la durée, il faut respecter plusieurs principes. D'abord, il faut toujours se dire que... il faut se donner du temps, ça c'est la première règle. On a encore l'exemple là, si vous avez besoin de l'argent à la fin du mois et qu'il y a une nouvelle comme celle-là, bien sûr, cet argent il n'aura pas pu fructifier. Donc il faut vraiment favoriser le temps long. Il faut se dire, je place pour quand même quelques années. L'idéal, ce serait à peu près 5 ans, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise année. Et on le sait, la bourse est un marché très volatile. On a l'expérience aujourd'hui où on peut avoir une année comme 88 où l'indice gagne 57% et vous avez 2008 où l'indice perd 43%. Donc on a vraiment ces deux extrêmes. Même si au fil de l'an, quand on regarde sur 30 ans la performance des indices avec les dividendes, on est sur un gain d'un peu plus de 9% par an en moyenne. Mmh. Mais ce n'est qu'une moyenne. Et on a des grands écarts entre des années fastes et des années vraiment très laborieuses. Mmh. Donc il faut, la principale règle, c'est de se dire, il faut du temps long. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut bien sûr toujours diversifier ses placements et pas détenir que un ou deux titres. Il faut en détenir au moins 10 qu'on commence et après élargir éventuellement, aller peut-être jusqu'à 30 voire 40 pour les très très gros portefeuilles. Mais cette notion de diversification est importante puisque on peut pas être à l'abri. Mais là si vous avez joué beaucoup de tourisme ce matin, le tourisme est à la peine, le transport aussi. Donc il faut être multisecteur et puis ce qu'on appelle dans le jargon boursier, c'est avoir une approche entre value et croissance. Donc il faut avoir des titres qui offrent d'excellentes visibilités. C'est un peu nos défenseurs, si on reprend une expression footballistique, pour éviter de prendre des buts. Donc c'est bien d'avoir de la tech, c'est bien d'avoir des valeurs où on a une croissance qui est quasiment garantie. Et puis il nous faut des milieux de terrain, des entreprises capables de bien se comporter.
C'est un grand spécialiste du
marché,
hein.
comme du Air Liquide. Ouais. Et il faut avoir de temps en temps quelques attaquants. Mais les attaquants, ça peut être blessé. Et on le voit avec les financières qui aujourd'hui souffrent. Mais on fait un excellent parcours depuis le début de l'année. Donc voilà, donc il faut essayer de mixer un petit peu ces composantes pour essayer de s'adapter au marché.
Sarah Thirion, je suppose que vous souscrivez à tout ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme conseil pour gagner dans la durée?
Je partage avec les conseils de François. Je crois qu'il faut surtout, d'une part, acheter des secteurs, enfin des sociétés qui évoluent sur des secteurs avec des très fortes croissances sous-jacentes, des croissances qui sont supérieures à la croissance historique du PIB. Donc ça, c'est important. Et que ces sociétés disposent de fortes barrières à l'entrée et qu'elles aient historiquement montré, témoigné de leur capacité à transformer en fait la croissance du chiffre d'affaires dans leur résultat opérationnel et dans leur résultat tout court. Donc ça, c'est très important. Téléperformance ou L'Oréal, voilà, sont de bons exemples effectivement de sociétés. Voilà. Ça, c'est pour moi un premier filtre qui est crucial. Le deuxième filtre, c'est que quand on investit en bourse, alors pour ma part, François adresse plutôt des particuliers, j'adresse pour ma part plutôt des spécialistes, des investisseurs financiers. J'ai la chance d'adresser des gens qui sont le nez sur leurs écrans toute la journée et donc au fait de l'actualité. Quand on est un investisseur particulier, je crois qu'on ne peut pas se dire qu'on va investir en bourse et ne pas s'intéresser à l'actualité. Et donc, il faut être extrêmement vigilant, curieux et attentif à toutes les disruptions.
Réactif.
Et attentif à toutes les disruptions qui peuvent intervenir sur un certain nombre de secteurs.
Anticiper
les changements qui peuvent intervenir sectoriels pour éviter de se retrouver coincé quand une société fait malheureusement un miss technologique ou un miss de stratégie. Peu importe.
Donc, pas laisser son portefeuille dormir comme ça.
Voilà, ouais. On n'est pas aveugle et je pense que c'est toujours bien aussi soit de suivre les recommandations d'investir.
Par exemple.
Les sélections fonctionnent très très bien. Soit d'être investi chez des spécialistes, en achetant des parts de fonds, parce que ces gens-là sont quand même au fait de tout et c'est quand même beaucoup plus simple.
On leur donne les clés.
Voilà, de leur donner les clés. Ils sont très bons.
François Monnier, donc les principaux risques sur le marché pour 2022, un dérapage de la situation. Sanitaire.
Mais il y en a d'autres.
Ouais, et quoi d'autre?
Le principal risque en dehors du coronavirus, c'est cette inflation qui peut avoir un impact conséquent sur les taux d'intérêt. Et quand on touche au taux d'intérêt, ben on touche au marché obligataire. Et le marché obligataire, bien sûr, influe fortement sur les actions.
Si ça craque sur l'obligataire, attention, hein, donc, tout sous abri.
Absolument, ça c'est un risque. Donc c'est bien les identifier. Ça ne veut pas dire que ces risques vont se produire. Parce que vous avez deux théories. Il y a ceux qui pensent que ces pénuries, elles ne vont pas durer. Et puis d'autres qui pensent que ces pénuries, elles sont là pour plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres.
Tout ça est lié à la situation sanitaire.
Absolument.
Hein. Donc si ça s'aggrave de nouveau, ces problèmes-là seront encore plus...
Oui, il y aura peut-être plus cruciaux. Peut-être, mais ça va peut-être réduire la consommation.
La demande.
Donc si vous réduisez la demande et que vous avez un problème d'offre, ça peut à nouveau s'équilibrer. Donc si vous voulez...
Pour ça qu'on voit le pétrole chuter aujourd'hui. Demande en énergie risque d'en souffrir.
Si on veut positiver, on peut se dire c'est difficile d'avoir les deux mêmes problèmes en même temps. Donc une inflation des prix et une demande qui chute. Mais voilà, donc il faut bien sûr les identifier pour essayer de passer entre les gouttes.
Sarah Thirion, sur l'inflation.
L'inflation, c'est un risque, mais on en avait rêvé pendant des années, donc c'est génial finalement. Voilà.
On rêve d'une bonne inflation. Là, c'est une inflation pour les.
Le problème, c'est que c'est
pour de mauvaises raisons.
Oui, mais enfin bon, si on n'a pas de résurgence majeure de Covid, etc., c'est une inflation qui devrait se normaliser quand même à mi-2022.
D'accord.
Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, un banquier central ne peut rien faire contre ce type d'inflation.
Pourtant, il est là pour combattre l'inflation.
Voilà, mais là, en l'espèce, c'est une inflation pour des raisons très spécifiques, effectivement, de demande et d'offre. Et donc, c'est très particulier. Et donc, je ne suis pas certaine qu'une banque centrale puisse apporter des réponses à ça. Moi, j'ajouterais aux facteurs de risque, au-delà de ceux cités par François, les tensions sino-américaines, parce qu'on voit les Chinois tenter de retirer de la côte certains de leurs titres, ouais, pour des raisons de sécurité. Sent quand même que c'est toujours un peu prégnant. Et puis, tout ce qui émerge du post-Covid, tout ce qui a émergé déjà du post-Covid, c'est cette volonté protectionniste de tous les pays d'essayer de rapatrier chez eux, in-house, en fait, la croissance de l'économie. Et donc, ce risque protectionniste qui risque de continuer de monter, et de fait, peut-être, effectivement, aussi des risques de réformes qui vont se poursuivre en Chine, qui est quand même un moteur important de la croissance mondiale. Et donc, on peut avoir un certain nombre de réformes qui viennent perturber la lecture de certains secteurs. Enfin, les bulles. Parce que, évidemment, des situations comme on en a vécu en créent certaines, dont l'immobilier, et dont l'immobilier en Chine. C'est un phénomène que je ne veux... Enfin, c'est une situation que je ne veux pas sous-estimer.
François Meunier, j'avais une question sur la façon dont vous voyez le CAC 40 évoluer. Vous pouvez vous y risquer, là. Bon, alors, bien entendu, on passe sous les 7000 points. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais 6836. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, dans ces conditions-là? Tout peut arriver.
Ce qu'on voit, c'est que le cours du CAC 40, il est venu se reposer sur sa moyenne mobile à 50 jours, qui est aux alentours des 6007. Donc ça montre que on tient parce qu'on s'en était fortement éloigné. Maintenant, on attend vraiment les déclarations.
Donc on passe pas sous les 6007, ça va encore, c'est ça?
Là on est en mode un peu d'attente, on a encaissé la nouvelle et on attend maintenant la réaction des laboratoires sur ce coronavirus.
Qui pourrait changer la donne dans l'autre sens, quoi.
Exactement. Donc on peut avoir un nouveau coup de boost. Un fort rebond. Là on est dans une situation où tout est possible et on l'a vu avec les précédents confinements, etc. Où à chaque trou d'air, le marché repartait de plus belle. Donc il ne faut pas non plus se dire ça y est, c'est la fin. Là on a besoin, on encaisse le choc et on attend la réaction des labos.
Sarah Thirion, en quelques mots,
sur le niveau du CAC 40. Moi, je ne fais jamais de prédictions sur les indices. Bon. J'ai horreur de ça. Je fais des prédictions sur les valeurs. C'est plus utile pour moi. Hein. Et donc, une bonne sélection de valeurs qui puissent résister aussi à ces périodes-là. En fait, je voudrais que tout le monde ait plutôt en majorité dans son portefeuille des valeurs qui marchent avec ou sans Covid.
D'accord. Au moins, c'est clair. Merci à vous deux, Sarah Thirion et François Meunier. On vous retrouve pour les réponses à toutes les questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs dans trois quarts d'heure maintenant, même un petit peu moins. On fait une pause et on se retrouve pour une nouvelle heure. Ce sera la deuxième heure de BFM Patrimoine, car il est bientôt 11h sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.